Chers amis de PFC, bonsoir. Bienvenue dans cette réunion Prepare for Change du dimanche 12 avril 2015. Nous sommes ici à Romainville, quelques-uns, après la méditation de libération planétaire. Nous allons juste commencer par un petit tour de prénom.
Bonsoir, alors je m'appelle Sarah, voilà, je suis contente d'être là. Paix, amour et lumière à tous.
Bonsoir, je m'appelle Rosa Inès et je suis venue avec un grand élan d'amour pour vous tous.
Bonsoir, je m'appelle Daniel. Et je salue toutes les âmes sœurs qui cheminent sur le chemin de la paix, de l'amour, de la lumière. Namasté.
Bonsoir à tous. C'est Pierre. Je salue ma voisine qui est en face de moi, qui vient pour la première fois. Et je voulais dire aussi bonjour à mon copain Simon et à mon copain Tepa de Meta TV. Voilà. De retour de Kibon. Merci de revenir d'Israël aussi.
Bonsoir, je suis Avi. Bienvenue à tous dans cette réunion. Je salue tout particulièrement Lina, qui nous écoute régulièrement depuis le bord de la mer. Sois béni là où tu es. Et puis, comme cette réunion est sous le signe de la lumière, nous avons trois belles bougies. Voilà, bah, j'envoie toute la lumière du monde, tout ce qui est possible pour illuminer le chemin de chacun. Et je fais un salut particulier à tous les membres de Prepare for Change de la planète entière qui œuvrent chaque dimanche pour que la paix revienne dans nos cœurs et pour que nous vivions une vie qui nous ressemble vraiment. Voilà, donc je vais donner quelques petites règles pour cette réunion, c'est vraiment minime. Premièrement, nous sommes tous à égalité, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de rôle particulier. Chacun peut amener ses compétences dans ses réunions et puis les exercer à égalité avec les autres. Et donc, dans ces réunions, comme elles sont enregistrées, nous essayons de rappeler notre prénom à chaque fois que nous prenons la parole pour que les personnes qui écoutent sachent qui est en train de parler. Parfois, c'est pas évident, seulement avec la voix. On essaye de s'en souvenir. Et puis, une règle vraiment de bon sens, nous essayons de ne pas monopoliser la parole. Et puis, à tout moment, vous pouvez demander le micro en levant la main. Ce micro est comme un bâton de parole. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui parle, celle qui a le micro dans la main. Et si vous voulez parler, attendez que le micro arrive, parce que pour les auditeurs, si vous parlez à un mètre, c'est inaudible. Voilà les petites règles très simples de base. Peut-être faire un bref résumé de ce que c'est que PFC, parce que dans cette réunion, où nous sommes 5 personnes, il y a une personne nouvelle, il y a une personne ancienne, mais qui nouvellement revient, c'est une ancienne nouvelle, il y a une personne qui est nouvelle, qui revient un peu plus récemment, et puis il y a une personne nouvelle ancienne qui vient depuis un petit peu de temps. Voilà, enfin tout ça c'est juste histoire de rigoler un petit peu. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Donc le mouvement Préparez-vous au changement, comme son nom l'indique, essaye de nous préparer à changer de taux vibratoire sur Terre pour en quelques mots simples, libérer la planète de l'oppression et de la manipulation, qui est assez sensible dans beaucoup de domaines différents. On peut sentir qu'il n'y a pas vraiment de liberté totale sur cette planète. Sinon, il n'y aurait pas besoin de libération. Ça se saurait. Voilà, donc c'est un mouvement qui dit que dans la galaxie, notre galaxie, la Terre est la dernière planète à être encore manipulée par les forces d'oppression, les forces qui veulent contrôler les choses, les finances, la science, la médecine, les médias, l'énergie, tout, hein, les médicaments, etc. Donc, pour se libérer de ces forces qui, d'après PFC, sont à l'œuvre depuis au moins 26 000 ans sur Terre, pour se libérer de ces forces, nous avons besoin d'élever notre niveau de conscience. Et c'est le but de ces méditations de libération planétaire chaque dimanche à 21h. Élever le niveau de conscience, créer des groupes de soutien pour augmenter la masse critique des personnes conscientes sur Terre qui finalement aboutira à un basculement qu'on appelle dans ce mouvement l'événement. Cet événement sera un flash d'énergie en provenance du soleil central de la galaxie et qui, à la suite de l'augmentation de la conscience sur Terre, entraînera un changement de conscience. Ce flash d'énergie, il suivra notre évolution de conscience et il nous entraînera dans une conscience encore plus élevée. Chaque personne se souviendra de ses origines, chaque personne sera plus connectée à elle-même. Ce flash d'énergie sera le déclencheur de cet événement et quelques autres choses arriveront sur Terre pratiquement au même moment. La première des choses, c'est la réinitialisation de tout le système financier, monétaire et bancaire sur Terre. Plus aucune banque ne sera ouverte. Ça durera entre 2 et 15 jours, a priori, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire que le système bancaire tout entier sera réinitialisé, repartira de zéro sur des bases plus équitables. Il y aura un nouveau panier de monnaie, les monnaies seront adossées à l'or et il n'y aura plus cette bourse et ces marchés financiers qui manipulent complètement les finances. Plus aucun distributeur ne fonctionnera, c'est pourquoi il nous est dit de prévoir un petit peu d'espèces et un petit peu aussi de provisions chez nous et puis d'avoir le réservoir de notre voiture plein dès qu'il atteint la moitié. Tout ça parce qu'il pourrait y avoir quelques jours de transition où les magasins ne seraient plus ouverts, où il y aurait un arrêt des fournitures de base, le temps qu'un nouveau système se mette en place. Pour faire suite à ça, dans les premières heures de cet événement, il y aurait une divulgation de ce que c'est. Toutes les chaînes de télévision diffuseront un message réel, une formation, une vidéo longue qui indiquerait qu'est-ce qui se passe. Hein, et tous les journaux diront la même chose et toutes les sources, les médias, la radio, etc., diront aussi, expliqueront aux citoyens ce qui se passe. Donc, c'est la chose que nous pouvons faire si nous ne savons pas ce qui se passe, c'est juste allumer la télé. Il y aura une seule chaîne partout qui diffusera une vidéo de 16 heures de formation sur ce qui se déroule. Voilà, qui dira entre autres que ce n'est pas un coup d'État, que le changement est positif et que la Terre est en train d'être libérée, de se réaligner. Ensuite, il y aura une arrestation de toutes les personnes qui sont dans des postes de pouvoir et qui ont abusé du système à tous les échelons. Ces personnes, si elles ne se rendent pas d'elles-mêmes, seront arrêtés, isolés, et puis rééduqués, elles ne seront pas violentées, ni torturées, ni rien. Elles sont juste mises hors d'état de nuire. Et puis progressivement, il y aura des introductions de nouvelles technologies, nouvelles médecines, nouvelles énergies, nouveaux médias. Progressivement, nous travaillerons beaucoup moins, peut-être 3 heures par jour, et nous aurons le temps d'être vraiment nous-mêmes un peu plus, et puis d'avoir le temps de nous épanouir. Chaque citoyen de la planète recevra un montant d'argent, environ 70 000 euros, d'après ce que je me rappelle, qui est issu des forces de la résistance qui ont récupéré de l'or qui avait été manipulé, qui avait été mis de côté. Donc ces richesses-là seront des fonds de prospérité destinés à ce que chacun puisse avoir accès à une certaine abondance dans l'attente, dans l'intervalle jusqu'à ce que la Terre retrouve un rythme de croissance normale. Voilà, et puis le porte-parole de ce mouvement s'appelle Cobra. Cobra, c'est pas juste le nom d'un serpent, c'est un acronyme. C'est quelques lettres issues des mots anglais compression, breakthrough, donc percer par compression. Et la compression, c'est les forces intraterrestres envoient leur lumière vers la croûte terrestre, parce que ce sont des êtres de cinquième dimension. Les forces extraterrestres envoient leur lumière vers la croûte terrestre, parce que ce sont aussi des êtres de dimension plus élevée. Et les forces terrestres positives, qui sont aussi des gens incarnés pour nous aider, envoient leur lumière sur la croûte terrestre de la planète. Ce qui fait que les forces manipulatrices se voient comprimées, hein, comme un sandwich entre la lumière du haut, la lumière du bas et la lumière de la planète, de la surface. Et cette compression durera jusqu'à ce qu'il y ait une percée, c'est-à-dire que l'obscurité puisse totalement se dissoudre au moment de cet événement. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de littérature sur le site prepareforchange.net, sur Internet. Il y a beaucoup de littérature en français sur le site Être Plus, dans la rubrique PFC, des petites annonces du site. Et puis, il y a beaucoup d'enregistrements audio, certains dans lesquels nous donnons un aperçu beaucoup plus profond, complet, de tout ce qui concerne ce mouvement. Donc vous pouvez vous former avec toutes ces sources d'informations différentes. Et puis Romainville est un groupe qui a commencé dès le début, en septembre 2013, par une première grande réunion de 22 personnes. Et depuis, nous faisons pratiquement chaque dimanche une réunion qui est écoutée ensuite à travers toute la France et toute la francophonie par environ 400 personnes sur la durée. 400 personnes différentes à travers les enregistrements audio. Donc nous pouvons avoir l'historique aussi de tout ce qui s'est dit depuis le début des réunions. Alors, il n'y a pas de date annoncée pour l'événement. Il surviendra lorsque le niveau de conscience sera suffisant sur Terre. Alors, comme disait quelqu'un, on essaie de ne pas entrer dans les attentes, mais on peut s'y attendre. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, s'il y a des choses à dire, je donne la parole à qui souhaite s'exprimer. Ça peut être poser une question pour se former un petit peu ou dire quelque chose qui concerne l'évolution de la planète ces temps-ci. Qu'est-ce qui change dans le monde qui montre que le niveau de conscience s'élève?
Oui, alors c'est Pierre qui prend la parole. Merci à lui. Alors, j'ai découvert cette semaine une vidéo sur l'Islande. Puisque j'ignorais complètement que l'Islande avait fait sa révolution pacifique. Et ça s'appelle 911. Bon, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Splot 911, le nom de la vidéo. Comme ça. Alors, j'étais stupéfait d'apprendre que depuis 2009, des événements populaires ont eu lieu dans ce pays, qui ont déjà vécu leur basculement, j'ai envie de dire, hein, qui n'ont pas attendu la compression finale. Ça, c'est vraiment très encourageant. Après le documentaire de Rafael Correa dont j'avais parlé il y a 3 semaines sur le président équatorien. Et donc, impressionnant aussi donc, la concordance avec ce dont parle Cobra, c'est-à-dire changement du système monétaire, emprisonnement des banquiers, des choses comme ça. Alors, enfin, je ne sais pas beaucoup plus. Déjà, ce que j'ai vu, ça m'a étonné parce que je me suis dit comment j'ai pu l'ignorer aussi longtemps. On est quand même en 2015. C'était en 2011, je crois, je ne sais plus très bien. Donc ça, c'est vraiment une preuve très concrète des changements positifs. Et un sacré exemple. Alors évidemment, ma réflexion, c'est de me dire que ce qui est faisable en Islande est faisable partout ailleurs, mais peut-être que dans certains pays, c'est plus difficile pour des raisons historiques et pour des raisons d'enjeux généraux. Puisque l'Islande, c'est un pays, pour moi, enfin, d'après ce que j'ai compris, qui a gardé une certaine forme d'authenticité dans sa nature, on va dire, dans son identité profonde. Dans la mesure où, on va dire ça comme ça, l'influence de l'Église catholique romaine n'est pas très forte, et on trouve encore ce lien avec le monde invisible qui est pour nous ahurissant, qui est naturel chez eux. Donc ça, c'est quand même assez fort comme signe, comme symbole, que l'Islande se soit libérée avant bien d'autres. Et ça, c'est complètement dans le sujet de Prepare for Change. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et juste une dernière chose, j'ai découvert une vidéo qui s'appelle Raisonne, RAISO2NE, et j'ai trouvé sur le site de MetaTV, et il est présenté de cette manière. Voici le documentaire que vous ne verrez pas à l'école. Ça parle de la théorie de l'évolution. Et ça explique comment la théorie de l'évolution, qui est basée sur 2 principes fondamentaux, à savoir la mutation génétique et la sélection naturelle. Ça montre de manière très simple et très esthétique comment cette théorie n'est pas très très fiable, dirons-nous. Voilà. Donc je vous invite à découvrir pour ceux qui voudraient voir cette vidéo très intéressante, qui dure pour l'instant, il y a 2 parties, là, je n'ai vu que la première, elle dure 29 minutes. Voilà.
Bonsoir, c'est Daniel. Je voudrais juste ajouter un point sur le i par rapport à l'Islande, puisque j'ai eu un partage avec une personne qui porte la fréquence de Isis. Islande, c'est la terre de Is, donc de la mer. Donc, merci à toi, Pierre, d'avoir soulevé, quand tu parlais d'énergie vraiment authentique, j'entends vraiment que les élémentaux sont là pour aider vraiment ces personnes. Et c'est une question de conscience, et de qualité de conscience et de cœur. Donc, merci à Isis. Voilà, je reviendrai tout à l'heure.
Et j'aimerais ajouter aussi dans cet esprit que nous sommes tous des pyramides de lumière et que nous lançons notre lumière vers l'infini. De Paris. Je parle de Paris. Montreuil.
Oui, et puis l'Islande a mis ses banquiers en prison pendant la crise financière. Le peuple a mis le gouvernement dehors, a réécrit une constitution, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. L'Islande, c'est aussi un pays où parler des fantômes, des elfes, des lutins n'est pas du tout mal vu. Même une ancienne présidente de la République parle du monde invisible. Il y a des cartes du monde invisibles en vente en Islande. Il y a des parcs où on peut repérer. Ici, c'est plutôt les lutins. Ici, c'est plutôt les elfes, etc. Donc, les enfants à l'école ne sont pas... n'ont pas de lavage de cerveau en ce qui concerne tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est énergétique. Ils font des routes qui devraient être tout droites et par moments, les routes font un gros détour pour contourner un rocher habité par des elfes. Et lorsqu'ils ne font pas ça, lorsqu'ils ne tiennent pas compte du logement des elfes, ils reviennent travailler le matin et leurs machines sont renversées, sont par terre, sont cassées, ne marchent plus. Ouais. Et c'est très véridique. Hein. Là-bas, ils ont les ingénieurs se concertent pour ne pas empiéter sur le monde de l'invisible lorsqu'ils construisent des choses. Parce qu'un simple rocher, pour les elfes, ça peut être une université où ils sont enseignés des choses, mais ce n'est pas dans le monde visible. Et la plupart des enfants jeunes, avant l'âge de 7 ans, voient les elfes et jouent avec les elfes. Et les elfes leur donnent même des petits cadeaux, des petites clés minuscules, des choses comme ça. C'est un pays très volcanique et c'est un pays très intéressant à visiter. J'y suis allé en 2012 parce que j'étais très curieux de voir ce pays. Eh bien, il s'avère que l'Islande est dans les actualités aujourd'hui, cette semaine, et c'est un quotidien suisse, le matin suisse, et c'est dans aucune presse française, mais c'est dans une presse suisse. Et je pense que l'Islande et la Suisse sont quand même assez proches dans le sens que la Suisse a toujours eu une tradition de neutralité. Et puis, il y a une démocratie participative, il y a beaucoup plus de liberté politique en Suisse qu'ailleurs en Europe. La Suisse est comme une île au sein de l'Union européenne, elle ne fait pas partie de l'euro, elle est vraiment à part. C'est une île dans un continent, comme la Grande-Bretagne était une île dans l'Europe. Donc, ça continue. L'Islande veut révolutionner le système monétaire. Et voilà c'est une information récente. Hein. Le 12 avril 2015, hein, on est le combien ? Ben on est le 12. Mais enfin, j'ai vu cette information. Ça a dû être mis à jour le 12. Hein. Non, ça date du 1er avril. Hein. Donc, c'est quand même très récent. Le gouvernement envisage d'enlever aux banques le pouvoir de créer de la monnaie. Et ça, c'est énorme, parce que ce sont les banques privées qui, aujourd'hui, créent la monnaie à travers le crédit. Et c'est l'origine principale de la dette, de notre dette, c'est la dette qui s'accroît infiniment. Donc... Les Islandais ont beaucoup de bon sens. Ils voient les problèmes, ils voient l'origine des problèmes, et comme ils ont une certaine indépendance, eh bien, ils appliquent des solutions de bon sens. Alors que chez nous, la politique, la finance, tout est tellement entremêlé, les pouvoirs sont tellement entremêlés que dire une chose aussi simple que ça, que c'est absurde que l'État doivent emprunter aux banques privées pour se financer. Et donc, il y a un intérêt à reverser, alors que l'État pourrait créer sa monnaie. Et c'est ce système-là qui a provoqué toute la dette. Et c'est depuis Pompidou. Et ça, alors qu'avant, l'État avait besoin d'argent, il imprimait des billets, il se finançait lui-même. Et ça lui coûtait rien, 0%. Aujourd'hui, il emprunte sur les marchés et il reverse des intérêts. Mais qui reverse des intérêts ? Ben nous, les Français. Les Français, les Américains, tous les pays du monde, pratiquement. Il y a trois pays qui n'ont pas ça, c'est l'Iran, ils n'ont pas de banque centrale. Il y a la Corée du Nord et Cuba. Voilà. Donc trois pays dans le monde où il n'y a pas de banque centrale. Tout le reste, c'est manipulé grâce à ces taux d'intérêt. Et en fait, quand vous achetez une voiture ou un logement, la banque vous donne un crédit. La banque crée l'argent à partir de rien. C'est-à-dire, ils vous mettent sur votre compte, c'est une ligne informatique dans leur compte, 100 000 euros en crédit. Ils ne viennent pas d'or ou ils ne viennent pas de leur dépôt de clients. C'est de l'argent purement créé lorsqu'on achète quelque chose à crédit. Et cet argent est détruit lorsque vous remboursez le crédit. Mais il y a une spirale qui fait que la dette des pays augmente sans arrêt, qu'elle est de fait irremboursable. Pour la plupart des pays, elle n'est pas remboursable, ce qui provoque le problème de la Grèce, ce qui provoque que les États-Unis ont une dette monstrueuse de 1 trillion de dollars ou quelque chose d'approchant. Donc voilà la proposition en Islande. La proposition est de mettre fin aux privilèges concédés à des acteurs privés en faveur d'une architecture diégiste appelée système de monnaie souveraine. La banque centrale déterminerait le rythme de la création monétaire en fonction des besoins perçus de l'économie. Donc il y aurait un pouvoir de créer de la monnaie séparé de celui de décider comment cette monnaie nouvelle est utilisée. Donc ils ont enlevé l'aspect néfaste de cette création monétaire. Alors pour information, la totalité de l'impôt sur le revenu en France, soit environ 50 milliards d'euros, est destinée à rembourser uniquement les emprunts, les intérêts de la dette française. Tous les impôts que vous payez, c'est seulement pour rembourser les intérêts, sachant que le capital, il est beaucoup plus énorme, beaucoup plus grand que ça. Donc, c'est un système, en vérité, quand on l'analyse vraiment, qui n'a ni queue ni tête, et qui est destiné à mettre les gens en esclavage. Parce qu'on nous dit, austérité, il ne faut pas dépenser, il faut rembourser la dette, comme un ménage qui est censé... Ne dépense pas plus que ce qu'il a, et donc on rembourse, alors que cette dette, elle est pour la plupart illégitime, comme en Équateur, où le président a carrément dit ce qui est illégitime, on ne le rembourse pas. Et à partir du moment où il a dit ça, les investisseurs, le coût de cette dette a chuté en bourse, et comme il a chuté en bourse, l'Équateur l'a racheté au tiers de son prix. Donc, ils ont éliminé 2/3 de leur dette en un claquement de doigts, en disant, on ne remboursera pas. Et ça, aujourd'hui, c'est une audace incroyable, parce que personne n'ose faire ça. Il y a beaucoup, beaucoup de dettes dans le monde qui sont illégitimes. Ça veut dire qu'elles ont, par exemple, les pays où il y a eu des colonies en Afrique, ceux qui creusaient pour avoir de l'uranium, ils ont eu des emprunts pour faire des routes, mais pour l'uranium. Et ensuite, quand ils sont partis et que les colonies sont devenues indépendantes, les banques privées ont dit « vous devez de l'argent pour ces routes, pour ces emprunts, vous continuez à rembourser ». Eh bien non. Dans le droit international, c'est pas au profit des populations que ces emprunts ont été pris. Donc, ces emprunts sont illégitimes, cette dette est illégitime, et donc elle peut être annulée. Et en France, il y aurait 60% de la dette qui est illégitime, et dans la plupart des pays, il y a beaucoup de dettes, et c'est vraiment un article du droit international qu'on peut faire valoir en justice, que la dette n'a pas été prise au profit des populations, et donc les populations n'ont pas à rembourser. Voilà. Alors, pour l'instant, ce n'est pas adopté encore, c'est une proposition, mais l'Islande fait figure de pionnier dans bien des domaines. Et comme pour le budget de l'État, le Parlement débattra de la proposition du gouvernement pour l'allocation de la nouvelle monnaie. Les banques garderaient la gestion des comptes et moyens de paiement, ainsi que la fonction d'intermédiaire entre épargnants et emprunteurs. Voilà, donc ce n'est pas encore voté, mais il y a quand même une volonté forte d'aller de s'affranchir des choses. Voilà, eux, ils savent que il y a des crises qui frappent l'Islande tous les 15 ans, des crises monétaires parce que le crédit s'emballe et que ça arrive à des crises où on ne peut plus rembourser, hein, comme ce qui s'est passé en 2008. Voilà, donc ça c'est l'Islande qui montre le chemin, encore une fois. Alors parfois il y a des mouvements très justes comme ça, qui sont quand même déviés, qui sont quand même empêchés. Ce qui est important, c'est qu'il y a ce désir de s'affranchir de cet esclavage qui est là.
Oui, merci pour ces informations sur... sur la notion illégitime des impôts sur le revenu, parce que moi je suis en plein dedans, d'un point de vue personnel, et j'ai quand même deux informations à ce sujet. Tu parles de s'affranchir justement d'un système qui n'est pas juste. Et alors moi l'an dernier j'ai découvert par intermédiaire d'un monsieur qui se fait appeler l'emmerdeur. Son nom c'est Michel... J'ai toujours un trou de mémoire, il y a toujours un élément qui me manque. Bon, Michel quelque chose, c'est un juriste, et il a monté son association, et il propose à personnes qui adhèrent à son association des astuces légales pour, pour s'en sortir un peu mieux financièrement déjà. Et ça fourmille de plein d'idées. Et une des idées phares, à mon sens, dans son association, c'est celle qui consiste à écrire aux impôts la lettre qu'il appelle la lettre 6001. C'est une lettre qui se base sur le code pénal financier LPF, c'est ça ? Oui. Sur l'article 242.7, ou un truc comme ça, qui stipule que l'État ne peut pas, l'administration ne peut pas demander à une personne dans en difficulté, pas réclamer une certaine somme, on va dire. C'est tourné comme ça, à peu près. Hein, bon, là, je... Et le fait est que, on peut faire un dossier, mais d'après ce que j'ai compris, quelle que soit la situation, on peut écrire la lettre. Et que ça marche à tous les coups. Et que la moyenne des gains, c'est 752 euros. Alors moi, je l'ai fait l'an dernier, j'avais un impôt de 1100 euros sur le revenu. Et j'en ai payé que, je crois, j'en ai payé même pas 600. Enfin, en tout, je crois que j'ai gagné 800 euros, voilà, un truc comme ça. Donc, c'est pas UT614, donc c'est pas tout à fait ça. Donc, déjà, ça m'a quand même permis de me débarrasser de la moitié de l'impôt, quoi. Plus de la moitié. Juste en écrivant une lettre. Donc, je l'ai, cette lettre. Moi, je la distribue à ceux qui veulent bien l'écrire, à ceux qui veulent bien s'en servir. Et cette année, eh bien, ça n'a pas marché. J'étais très étonné. Et j'avais pourtant un impôt énorme à 2200. Et pas plus d'argent que l'année dernière. Donc, j'ai dû écrire la lettre 6002, parce qu'il y a deux lettres. Hein. D'abord, on peut demander un dégrèvement. Et si ça ne marche pas, on peut demander... après, il y a deux lettres à faire, en fait. Et donc, là, j'ai reçu un autre courrier, etc. Donc, là, le dossier passe au conseiller fiscal. Et entre-temps, là, ils se sont déjà servis sur mon salaire. Donc, c'est très désagréable. Mais en tous les cas, cette lettre fonctionne en général plutôt bien. Et la deuxième information que je voulais donner aux impôts, c'est l'histoire d'une dame qui s'appelle Françoise Brisson, qui vit dans le sud de la France, je crois. Et elle a fait quelque chose de très spécial. Elle a mis son impôt sous séquestre à la police. Je crois que c'est au Vésinet, ça s'appelle. Le village dans le sud de la France. Et elle a écrit un courrier au ministère des Finances et au ministère de... Alors, il y a deux courriers. Je ne sais plus lequel, le deuxième. Et elle dit qu'en fait, au nom de la lutte contre le terrorisme et au nom du défaut d'information de l'État sur les chemtrails, eh bien, elle refuse de payer l'impôt. Et donc, c'est sur les conseils d'un agent de police qu'elle a écrit ce courrier. Un gendarme, plutôt, qu'un agent de police. Et comment ça s'est passé ? Donc, elle a mis l'argent sous séquestre. Alors, comment ça se passe ? Je crois que c'est sous forme de chèque. Mais ça, je ne sais pas très bien, j'ai pas très bien compris. Et donc, l'argent est disponible. jusqu'à ce que l'État veuille bien donner des informations à ce sujet, ce qui évidemment ne risque pas d'arriver demain. Et elle a reçu une réponse des deux ministères. Donc j'ai le courrier chez moi, je l'ai fait photocopier, enfin j'ai fait imprimer, puisqu'il apparaît sur le site de l'Axe Epica, le site de Claire Henrion, sur donc les épandages aériens clandestins. Donc évidemment, je me suis posé la question de faire la même chose, et puis j'ai pas eu ce... Enfin, c'était un peu trop flou pour moi, donc je ne l'ai pas fait. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant, en termes d'affranchissement, comme tu disais, à vie. C'est une personne seule, alors qui aussi parle de sa santé, qui dit qu'à cause de ça, elle a des problèmes de santé, et que ça aggrave ses problèmes de santé. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elle en parle de manière très explicite. Dans son courrier, elle ne fait pas d'allusion, c'est... Voilà. Elle ne dit pas que c'est une rumeur, non, elle dit que ça existe, et que c'est très dangereux, et que voilà, et elle parle de, ce qui est très fort, c'est qu'elle parle de terrorisme, ça, c'est énorme. Et elle cite la loi française qui dit que toute personne qui ne dénonce pas le terrorisme est elle-même criminelle, un truc comme ça, mais il faut voir avec le ton qu'elle emploie pour parler de ça, c'est phénoménal. Donc je vous invite à lire ce courrier, donc sur le site de l'Axe Epica, à la rubrique Action, je crois. Voilà pour l'impôt sur le revenu.
Quelqu'un d'autre ?
Daniel, moi j'ai une question, je vais changer de sujet, si c'est possible, concernant le traité de transatlantique, qui est un traité donc assez dangereux. Est-ce qu'il y a des informations via Cobra, ou est-ce que c'est des informations sur ce sujet ? Quelle est la position en dehors de signer des pétitions ? Y aurait-il un mouvement ou... À part son regard, quel élément un petit peu qui pourrait nous aider, nous cheminant sur actuellement par rapport à ce traité, pour voilà, ne pas être dans l'inaction. Merci. S'il y a une réponse. Merci.
Tout ce qui concerne les manipulations diverses seront réglées au moment de l'événement. C'est-à-dire que c'est tout ou rien hein, dans ce domaine-là. On ne peut pas régler une partie, et c'est toute la machine qui est gangrénée. Donc, lorsque l'événement sera là, les manipulateurs seront retirés, et puis on redémarrera sur des bases saines. La plupart des civilisations dans l'univers sont libres. Il y a très peu de planètes comme la nôtre qui sont encore manipulées. À propos de payer ou non ces factures et ces impôts, ceux qui ne connaissent pas, il y a OPPT, les quatre lettres OPPT, One People Public Trust. C'est des juristes basés en Suisse. C'est un dossier assez long et un petit peu complexe à lire. Mais en gros, ils ont démontré que la plupart des États étaient des sociétés en fait illégitimes et s'appuyant sur une loi qui s'appelle la loi commune, je crois, common law, ils ont demandé, ils les ont accusés de collusion, enfin de choses bien précises. Et les États avaient un certain délai. Et s'ils ne récusaient pas l'accusation, ils étaient considérés comme coupables et ils étaient dissous. Donc, ça va très loin, hein, parce que d'après ces juristes-là, plus personne n'a le droit de vous demander de l'argent parce que son organisation est dissoute. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup de... Il y a déjà une personne aux États-Unis qui avait une grosse dette de, je ne sais pas, 80 000 dollars, ou je ne sais pas, qui a fait appel à ça et qui a, après beaucoup de tergiversations et puis des mois de silence, a reçu un acquittement total de sa dette. Grâce à ça, renseignez-vous au PPT. Si demain, chaque citoyen se sert de ça, après-demain, il n'y a plus de système. Alors, évidemment, ce n'est pas évident que tout le monde... c'est en fait, est-ce que je donne mon soutien à ça ou pas hein, ça peut... Donc, il y a des lettres standards à renvoyer, et puis Il y a une comptabilité. On s'adresse pas au contrôleur des impôts. On prend le nom et le prénom de la personne. On dit, si vous continuez à m'envoyer une lettre, vu que votre organisation n'existe plus officiellement, c'est vous personnellement qui serez poursuivi. Et ça, c'est très fort. C'est très fort parce qu'on s'adresse à des individus et plus à des sociétés. Donc, regardez, ça tient la route parce que c'est vraiment des juristes hein, qui ont planché là-dessus pendant des années et qui se sont appuyés sur des textes officiels pour le faire.
Je voudrais intervenir sur le sujet parce qu'il y a un groupe d'Espagnols qui, en Catalogne, ne paye plus l'autoroute parce que, effectivement, la société n'existe plus. Ils sont sur Internet, enfin il y a des sur YouTube, malheureusement je ne me rappelle plus du nom, mais en tout cas ils conseillent, enfin c'est illégitime de continuer à payer l'autoroute du côté de la Catalogne. Donc certains osent ne pas payer l'autoroute et ils doivent faire appel à la police. La plupart du temps la police ne vient pas, donc ils sont obligés d'ouvrir la barrière et à ce moment-là la personne s'en va. Bon, normalement l'employé menace de faire une déclaration d'amende, etc. Mais ça n'a pas de, il n'y a pas de conséquences.
Alors, on parle du pape, là. C'est une information de NERA. NERA est très active et il se passe des choses avec le grand collisionneur, le LHC. Il y a quelque chose en Suisse que les scientifiques ont construit. C'est un énorme cercle pour faire collisionner des particules très, très petites et pour étudier... entre autres, la particule qu'on appelle la particule de Dieu. J'ai entendu le boson de Higgs. Alors, le pape François, c'est très sérieux, hein, met en garde que le grand collisionneur de Hadron pourrait ouvrir les portes de l'enfer. Et c'est une déclaration officielle hein, du Vatican. De quoi s'agit-il ? Le pape François, dans une annonce officielle publiée par le Vatican, vient d'implorer la communauté scientifique d'arrêter les expériences en cours faites avec le grand collisionneur de Hadron, LHC. Il faut savoir que les scientifiques ont l'intention de faire la semaine prochaine des expériences afin de connecter notre monde avec un univers parallèle. L'avertissement du pape intervient quelques jours après que les scientifiques du CERN à Genève, en Suisse, ont révélé qu'ils prévoyaient de pousser l'écraseur d'atomes du LHC dans ses derniers retranchements énergétiques les plus élevés, dans le but de détecter des trous noirs miniatures et voir s'il est éventuellement possible d'ouvrir une brèche dans l'espace-temps. Une autre personne très sceptique par rapport à ces expériences n'est autre que le très réputé scientifique Stephen Hawking, celui qui est dans un fauteuil roulant, là, qui parle juste avec un mouvement de paupières, je crois. Qui a récemment averti que la fin du monde pourrait être déclenchée en jouant avec l'insaisissable particule de Dieu. Le pape François a averti la communauté scientifique d'arrêter de tester les limites de Dieu suite à l'annonce de la réactivation du LHC. Voilà, le pape était visiblement très désemparé alors qu'il s'adressait à une foule de dizaines de milliers de fidèles présents sur la place Saint-Pierre à l'occasion d'un de ses plus longs discours à ce jour. Alors voilà son discours. « Mes frères chrétiens, nous vivons dans une époque désespérée, dit-il à la foule. La science est sur le point de tester les limites de Dieu et de sa création. Dieu a imposé les limites entre le monde des vivants et le monde des morts. Ces scientifiques sont-ils sur le point d'ouvrir les portes de l'enfer ? demanda-t-il à ses disciples, visiblement ébranlés. Sommes-nous au seuil des jours maléfiques dont la Bible fait allusion ? Est-ce que des hordes de démons qui rôdent dans les fosses de l'enfer sont sur le point de déferler massivement dans notre monde? Il faut méditer quant à ces questions avant de permettre aux scientifiques de procéder à de telles expériences. Et pour terminer, en octobre dernier, plus de 400 des meilleurs physiciens mondiaux ont signé une pétition avertissant que le potentiel de Higgs pourrait devenir instable avec des énergies supérieures à 100 milliards de gigaélectronvolts et ont demandé au gouvernement de maintenir les expériences sous ce niveau. En gros, on pourrait déclencher un trou noir sur Terre qui détruirait toute la Terre, qui avalerait toute la matière de la Terre en une fraction de seconde. Bon, alors, voilà. C'était un collisionneur de particules qui a été défini pour étudier les secrets du Big Bang, pour recréer les conditions du Big Bang à ses premières secondes et pour découvrir l'univers. Mais, voilà, on dit qu'il y a des dangers à manipuler les particules sans savoir spécialement ce qu'on fait. Donc, le monde change. C'est daté. Publié le 2 avril 2015. Alors, il y a une photo du pape, il y a une photo du collisionneur de particules. Et le collisionneur de particules, c'est un cercle énorme de peut-être 50 km de diamètre ou plus. Pardon. Voilà le pape, donc, et puis voilà le collisionneur en lui-même. Donc c'est quelque chose qui est tellement grand qu'il y a eu toute une coalition de pays qui ont financé, parce qu'un seul pays ne pouvait pas, ça coûte extrêmement cher à financer. Donc si demain on va tous dans un trou noir, voilà, est-ce qu'on va peut-être renaître dans une autre dimension, à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, aujourd'hui même, j'ai vu cette information. Gâchis alimentaires, les supermarchés autorisés à donner les invendus aux associations. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que le gouvernement s'y opposait. Alors là, c'est là la question que moi je me suis posée. Pourquoi un gouvernement socialiste refuse de donner des invendus aux associations pour nourrir les personnes défavorisées? Alors je me suis vraiment posé la question. Hein, quelle est la réponse? Et pour moi, la réponse, c'est ça défavorise la croissance. Hein, ça défavorise le cheval, le moteur de la France, soi-disant. Que il faut acheter et acheter, c'est pas grave si on jette. Et donc ça montre vraiment le fonctionnement du système. Hein. Je sais pas si vous savez, ma fille me racontait, parce qu'elle était dans un squat et elle mangeait en récupérant les invendus dans les poubelles, des choses emballées, tout à fait consommables. Elle m'a raconté que McDonald's versait de l'eau de Javel sur les invendus pour éviter que les gens récupèrent dans la poubelle. Donc, voilà, il y a quelque chose d'insensé hein, là-dedans. Voilà, à la faveur d'un amendement de la loi Macron, le Sénat a autorisé les supermarchés à distribuer les invendus alimentaires à des associations. Ce vote est intervenu vendredi soir à l'unanimité, sous les applaudissements, malgré un avis défavorable du gouvernement. Alors, il y a le gouvernement qui est contre et il y a le Sénat qui est pour. Le Sénat est recensé, le gouvernement est censé nous représenter aussi bien que le Sénat et l'Assemblée. Alors, visiblement, il y a des choses qui ne passent pas, le courant ne passe pas. Voilà. Alors, l'amendement prévoit que les magasins de commerce de détail d'une surface supérieure à 1000 m² peuvent mettre en place une convention d'organisation de la collecte sécuriser des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d'une ou plusieurs associations d'aide alimentaire. Alors, il faudra encore l'adopter à l'Assemblée pour qu'il entre en vigueur.
Je voulais simplement ajouter qu'il y a quelques années, ça a été aussi un débat à Montreuil, justement, de cesser de jeter de l'eau de Javel dans les poubelles. afin que des populations puissent se servir. Voilà.
Alors juste, c'est Pierre, par rapport à l'histoire du collisionneur, entendre le pape dire que ça pourrait risquer d'ouvrir les portes de l'enfer, ça me donne plutôt envie de me dire, vu que ça vient de lui, que ce serait plutôt le contraire. Parce qu'en ce moment, il a beaucoup d'ennuis, hein. Il a quand même des casseroles qui lui reviennent. Enfin, c'est en Argentine que dans son propre pays, donc des avocats sont en train de faire remonter des choses très désagréables.
Alors, ils disent aussi qu'il y a eu un amendement à propos du gâchis alimentaire qui avait été déposé par un député UMP, mais n'avait pas été adopté à la demande du gouvernement, et que chaque jour, 20 à 40 kilos de nourriture sont jetés par chaque supermarché, alors que des gens en France ne peuvent pas, faute de moyens, se nourrir. Donc, il y a quelque chose d'assez incompréhensible. Et si on essaye de le comprendre, on entre forcément là où est le problème. Hein. C'est qu'il faudrait qu'il y ait une croissance infinie, alors que les ressources de la Terre ne sont pas infinies. Forcément, à un moment ou à un autre, la croissance va s'arrêter. Et d'ailleurs, en ce moment, en Europe, il y a une stagnation, voire un recul de la croissance. Donc c'est intéressant. De voir que les choses qui n'ont pas de sens au niveau logique, on leur trouve un sens pour plébisciter un mode de gouvernement qui est complètement irréaliste. Hein, et que même les socialistes sont prêts à jeter plein de nourriture. Chaque supermarché, 20 à 40 kilos. Ça fait des tonnes et des tonnes de nourriture. Sans compter que même chez les particuliers, il y a parfois 30, 40, 50% de la nourriture non consommée qui part à la poubelle, alors que c'est jamais redistribué. Alors, note positive, il y a des sites internet qui permettent de faire profiter ses voisins de tout ce qui vous reste que vous ne voulez pas jeter. Hein, ça fonctionne de plus en plus. Il y a une carte et vous voyez des petits points à 500 mètres, 1 km, 2 km. Moi, j'ai une soupe, qui veut, des choses encore consommables et données gratuitement. Hein, et ça, je l'avais lu sur Arte. Je l'avais entendu sur la chaîne avant-gardiste Arte. Voilà, j'ai encore une nouvelle, sauf si quelqu'un veut intervenir.
Daniel, un complément par rapport à ce que vous venez de dire. Pour moi, de toute façon, tout ça, c'est un changement de regard. Et puisqu'on est maintenu, phagocyté par tous les systèmes de gouvernance et autres, dans ces systèmes de consommation. Moi, j'ai eu, il y a 5-10 ans en arrière, une amie qui m'a emmenée, après qu'on ait fêté le nouvel an à la fête du Bonheur à Nanterre, qui m'a emmenée dans la cour du boulanger Saint-Paul. Et il y a donc des poubelles spécifiques où on ne peut pas toucher au pain. Et il y a d'autres poubelles, il lui avait indiqué lesquelles, la couleur, où on peut prendre le pain, ce que nous avons fait, il était 2h du matin. On a pris ces pains, ces baguettes, on s'est répartis. Et après, j'ai demandé, moi, à mes anges, qu'est-ce que je fais de ce pain? Hop, je l'ai emmené, je suis allée le porter donc, au restaurant du cœur. Mais donc, dans les, j'ignorais cet élément-là. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a 10 ans en arrière, donc, il y avait des poubelles où il y a le pain qu'on peut prendre pour les distribuer ensuite. Alors le pain, attention, il est la veille, hein. Il n'est pas de 3 jours, c'est ça aussi important, une question d'hygiène, puis de respect par rapport à l'autre. Et il y a des poubelles qu'on ne peut pas servir, parce que c'est vraiment du pain à jeter. Donc, et pour moi, de toute façon, tout est, je dirais quelque chose après, tout à l'heure, mais tout est une question aussi de changement de regard. Je suis allée à la maison Paris Durable avec les Colibris hier à Paris, où il y avait une réunion, des stands, et je suis tombée sur un stand, la boutique sans argent. Ça veut dire, tu apportes, donc zone de gratuité, ce qui se fait aussi à Montreuil, où je réside une fois par an, donc tant qu'ex-parisienne. Et là, donc j'ai apporté, alors l'idéal c'est l'échange, c'est le troc comme faisaient les femmes inuites dans le temps. Hein. J'ai apporté donc des produits, des éléments, et puis donc il y a maintenant un local, une boutique où on peut venir, quels que soient tes moyens. On n'est pas là pour profiter, mais on est là en effet pour apporter quelque chose, et puis voilà, j'ai un besoin spécifique, mais c'est un échange tout ça. Question de respect de mouvement de vie. Quoi. Donc la boutique sans argent, donc un couple, une association, et qui va trouver un local dans Paris. Donc voilà, les choses se mettent en place à partir du moment, voilà, c'est à nous de vrai, en tant que fourmis, même si on ne fait pas trop de bruit, mais et se le partager comme on le fait ce soir.
Cigale.
Voilà.
Merci. En tant que fourmi ou que cigale, ou les deux en même temps.
Et puis j'ai une dernière nouvelle en date du 7 avril par lemonde.fr. Le Monde, moi je l'appelle Le Monde Change. Lemondechange.fr. Mise au point d'une batterie rechargeable en une minute. C'est récent et ça risque de bouleverser complètement, en attendant l'événement bien sûr, notre relation à l'énergie. Alors c'est une batterie qui est mise au point grâce à l'aluminium. Elle est moins chère, plus écologique, plus endurante et elle est pliable. Et elle pourrait permettre de recharger les smartphones en une minute. En gros, ça se recharge à 70 ou 80% en une minute. Donc c'est très sérieux. Hein. Les chercheurs détaillent leur découverte dans la revue scientifique Nature. Assurent que la nouvelle batterie à base d'aluminium-ion a le potentiel de remplacer les batteries lithium-ion utilisé dans des millions d'ordinateurs portables ou de téléphones mobiles. Outre une recharge plus rapide, la nouvelle batterie est également plus sûre que les modèles actuels, parfois sujets à des risques de surchauffe et potentiellement inflammables. Ça peut même exploser parfois. Donc voilà, ben c'est, ils ont trouvé ça accidentellement. Ben merci les anges d'avoir généré cet accident, en constatant que le graphite fournissait d'excellentes performances lorsqu'il était associé à l'aluminium. Donc, c'est très léger, ça se recharge très vite et c'est beaucoup plus sûr, plus écologique, parce que le lithium est une source de pollution très importante. Hein, c'est très dur à recycler. Et ça a l'air d'une petite nouvelle, mais en même temps, quand on regarde que les nouvelles voitures sont électriques et que le gros problème, c'est les batteries, quand on regarde que les téléphones, au bout d'un jour, si on ne les recharge pas, bah, c'est fini, on n'a plus de connexion avec, avec le monde, et qu'en général, il faut laisser plusieurs heures sur le secteur, ça veut dire que quand ces batteries-là seront opérationnelles, on sera beaucoup plus autonome en énergie. Hein. Les voitures pourront rouler, s'arrêter à la station-service, faire le plein de la batterie comme on fait le plein d'essence et repartir. Donc il n'y aura plus besoin de batteries très lourdes et puis qui occupent énormément de place. On en aura peut-être besoin de moins. Et puis, il n'y aura plus besoin de chargeurs et de rester des heures à la station pour recharger. Pour le moment, ce sont les batteries le principal obstacle à la diffusion de la voiture électrique, qui est déjà beaucoup moins polluante que la voiture à base de pétrole. Pour notre vie de tous les jours, tous les appareils, les radios, les téléphones, tous les appareils autonomes, ben, dépendent encore de courants électriques. Et cette nouvelle-là ben, peut vraiment révolutionner le monde des batteries, hein, parce qu'on a ça dans tous les domaines de notre vie. Donc après, on pourra utiliser des batteries pour des choses qui aujourd'hui, pour lesquelles on n'envisage pas de mettre des batteries, parce que ça va se recharger tellement vite et tellement facilement que... Moi, je pense à mon vélo électrique. Hein. J'ai changé la batterie. J'ai payé 450 € pour une batterie. Elle est déjà, elle pèse un tiers de la batterie que j'avais avant. Et puis, elle consomme beaucoup moins. Et puis, elle dure beaucoup plus longtemps. Donc, d'année en année, on a des batteries de plus en plus performantes. Et puis, rouler en vélo électrique dans la ville, c'est vraiment un confort. Mais alors, c'est le modèle de circulation idéal parce que on met pas longtemps pour aller d'un point à un autre. On se gare n'importe où. Et à moins qu'on ait besoin d'un coffre, il y a même des vélos avec des petites remorques, hein, pour, même pour les enfants. Je dirais, ça désengorgerait toutes les rues de Paris immédiatement. Hein, parce que la plupart des gens sont seuls dans leur voiture et le coffre est vide. Donc, en Chine, c'est le pays où il y en a le plus. Il y a quelque chose comme 20 ou 30 millions de vélos électriques là-bas. Et les scooters à essence ou sont interdits. C'est-à-dire que si je veux une carte grise pour un scooter à essence, il y a un quota. Et il faut qu'il y en ait un qui soit détruit pour qu'il y en ait un qui soit autorisé. Donc, ils attendent 5 ou 6 ans pour avoir le droit de rouler en scooter à essence. Alors que les scooters électriques, c'est tout de suite. Ce qui fait qu'il y a ça partout, partout, partout. Avant, il y avait des vélos partout. Aujourd'hui, il y a des scooters électriques partout et des vélos électriques. La différence entre un scooter électrique et un vélo électrique, c'est que le vélo électrique, c'est de l'assistance. Donc, il faut pédaler pour que le moteur s'allume. Et si j'arrête de pédaler, ben, le moteur s'arrête. Et le scooter électrique, il y a un bouton. Et en France... avec un scooter, on est obligé de s'assurer et de mettre un casque. Avec un vélo électrique, c'est un vélo normal. Pas d'assurance, c'est l'assurance de la maison. Et pas de casque, et c'est limité à 25 km/h. Mais dans Paris, c'est super. Voilà, donc la mairie de Paris rembourse 50% aux Parisiens du vélo électrique sur facture. Donc même si vous avez un ami parisien, il peut l'acheter. Hein. C'est officiel parce que la mairie de Paris lutte beaucoup contre la pollution dans Paris avec tous les diesels et toutes les, surtout en ce moment il y a beaucoup de pollution et puis il y a des conditions de reprise d'une voiture diesel contre l'achat d'un véhicule électrique et la mairie de Paris finance une partie. La mairie de Paris est en train de favoriser la dépollution de Paris, c'est quand même beaucoup ça, c'est quand même important à dire, la qualité de l'air se dégrade beaucoup à Paris à cause du diesel. Et puis dans les jours où il n'y a pas de vent et qu'il fait beau, les particules se concentrent et stagnent, ce qui fait que même les personnes âgées, on leur dit de ne pas faire d'efforts, ou pas de sortir. Voilà, c'est assez dangereux. Moi, je remarque que j'ai parfois une petite toux qui est tenace, qui est réflexe, qui n'est pas liée à la grippe, qui est juste une petite toux qui revient quand mon système immunitaire est un peu déprimé. Hop, ça revient immédiatement. Et je me dis, c'est peut-être relié à ça. Voilà, donc le monde change lentement, jour après jour. Voilà, je crois que c'est tout pour les nouvelles du jour, de la semaine.
Je voudrais ajouter lentement et sûrement.
Sûrement, oui.
Rosa Inès.
Donc, Daniel, ben moi, j'ai une grande nouvelle à vous faire part. Ce n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a plus de bonne ou de mauvaise, c'est une grande nouvelle. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période de transformation et nous venons passer Pâques. Et donc, je vous partage votre discernement, libre arbitre. Accueillir, mais il y a eu donc un changement de paradigme à la méditation de pleine lune, donc le 4 avril, puisque nous étions jusqu'à maintenant dans une bulle cosmique de 12 000 ans, où on était par notre choix à vivre certaines expériences, et on a fait le choix de la bipolarité entre le positif et le négatif, entre le bien et le mal. Et en fin de compte, on a choisi ce paradigme-là, bipolaire, dualité, que moi j'ai transformé à un moment donné en complémentarité, parce qu'on avait besoin, en fin de compte, de faire ces expériences pour prendre les choix. Si on n'avait pas eu cette matière-là, on n'aurait pas pu faire les choix et être sur le chemin où on est aujourd'hui. Donc, on a à apprendre à lâcher ce regard bipolaire du bien et du mal. Sachant, pour information, que cet ancien paradigme était maintenu par la grille électromagnétique qui protégeait la Terre, cette bulle cosmique, qui influençait, qui contrôlait donc ce comportement pour nous maintenir dans cette dualité, volontairement. Et donc, d'après tous nos amis, Conseil de Sirius, Pléiadien, Maître Ascensionné, qui est avec nous présentement à la pleine lune, si je fais une erreur, Rosanès, tu m'accompagnes. Et donc, ceci a été donc... Il y a eu un switch. Je cherche le rien. Et ce que nous sommes, ben, comme disait tout à l'heure Rosanès, nous sommes des pyramides de lumière. Nous sommes en fin de compte, l'être humain est l'être le plus aimable et plein d'amour. Il a juste à changer ce regard et regarder la personne, toi, parce que tu es juste lumière. Nous sommes amour et lumière. Et on change de paradigme, on change de réalité. Ce qui nous est demandé aussi, c'est de nous concentrer donc sur ces choses évolutives, bénéfiques. Je n'ai pas employé le mot positif. Pour regarder le blanc tout le temps. Et le petit plus que j'aime beaucoup, qu'on soit endormi ou non endormi, comme nous autres, la conscience, elle est là, au ralenti, ou grandissante, mais chacun de nous, chacun d'entre nous, porte cette petite graine de lumière qui s'active de plus en plus. Et la pleine lune du 4 avril nous a aidés parce qu'elle était rouge de rouge, donc elle était dans un alignement soleil-terre-lune qui permettait de capter tous ces rayons qui viennent de Alcyone pour être dans le 9-9-9 corps, âme, esprit. Voilà. Donc, l'invitation aujourd'hui, c'est que c'est être l'amour que nous sommes en tant qu'être humain. La joie, la paix, il n'y a pas besoin de la demander, elle est là. Elle a toujours été là. Mais on a besoin d'apprendre. Et le nouveau paradigme, c'est choisir le bonheur. Comme là, ce soir, ben voilà. Moi, je suis là, je suis bien, dans l'instant présent. Tu es ici et là avec ta lumière, le bonheur est contagieux. Allons bon. Il nous a recommandé aussi de porter des habits, des choses en or. Parce que l'or, c'est quand même la pureté originelle. Et de toute façon, l'humain, plus tu vas prendre conscience de cette lumière en toi, bah, le chat, bah, de toute façon, il va savoir, ton patron, jusqu'à hier, te demandait, allez, fais tes dossiers, tout, puis d'un seul coup, toi, t'arrives, il va te parler différemment. Donc, je veux dire, les choses vont se faire d'une façon plutôt naturelle, c'est-à-dire tu ouvres ton manteau de lumière, simplement, hein, sans faire des esbroufes de fanfare, juste, voilà, par juste être là, quoi. Toi, je te regarde, moi, je sens ta lumière, Sarah, et voilà, je t'aime, quoi. C'est presque aussi simple que ça. Moi, ce que j'aimais aussi, ce qui nous a été transmis, c'est que les êtres éveillés, les êtres de lumière, ben, ils nous aiment. Parce qu'on est vraiment courageux. La race la plus aimée, c'est l'homme. Parce que l'homme, il sait, il capte tout. Et en ce moment, les capteurs de l'inné sont en train de s'amplifier. Et là, je suis en train de... Voilà, t'as vu l'espace que je fais, là, ça. Et l'inné, il est au-delà de la conscience, il sait tout. Capte tout. L'humain, il sent tout, il entend tout, il faut le savoir. On arrête de nous dire qu'on est des petits machins. Non, 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 non. On est lumière, on est amour. Je veux dire, c'est... Voilà. C'est, Donc, moi, j'avais envie de vous le partager, de vous le véhiculer là, parce que ça fait du bien de se la rappeler. Et puis de rayonner. Et il y a entre autres des deux hommes sur YouTube qui transmettre cette énergie de nouveau paradigme. Certains le connaissent. Donc, Tal Ben Chaleur. Je redis le nom. Monsieur Tal Ben Chaleur. C'est un Américain. Et en fin de compte, par son parler, son verbe, vous tapez son nom sur Internet et voilà. Ah non, l'autre Américain, c'est un monsieur qui a été interviewé par Lilou. Et son site, c'est Tout, T-U-T. Voilà, donc c'est bon de s'imprégner de cette nouvelle énergie. Et une chose aussi que je trouve importante, merci Monsieur le Pape, c'est que les religions, à la base, qui étaient religare, donc reliées, au début, c'était apprendre à se relier à quoi ? À l'énergie du cœur. Ça a été détourné, mais à la base, c'était vraiment transmettre les enseignements de l'amour. C'est-à-dire, voilà. Et donc tout le monde va pouvoir de nouveau respirer, émaner, émettre cette lumière, comme mon amie Rosa Inès, ici présente en face de moi, et m'évoquait, c'était un bonheur, c'était du gâteau en barre, tu me disais tout à l'heure. Voilà, et puis pour le petit truc que je trouve sympa, c'est le mot miracle. Dans le miracle, il y a le mi de moi, le ra de soleil, et clé des clés. Je suis les clés de la lumière. J'ai les clés de la lumière. Voilà, c'est nous le miracle, les chéris. C'est nous le miracle. Arrêtons d'entendre, voilà. Alors, avant, les clés de Saint-Pierre, Saint-Pierre qui a eu un petit peu peur de la femme et donc a construit l'église, avait mis comme clé la joie d'être en vie, le pardon, je libère mon karma, et puis la foi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de certitude parce que de toute façon, Dieu est, nous sommes Dieu et l'amour est. Voilà, c'est ça les nouvelles bases de vie. Donc voilà, je trouve ça sympathique. Pour certains, ce qui est bon de savoir aussi, c'est qu'avant, en tant qu'humain, on a été hologramme. Donc hologramme, géométrie sacrée, pour faire simple. Et donc, il est enseigné par certains thérapeutes de dessiner, d'écrire en écriture dessinée avec des symboles, avec de la géométrie sacrée. Et juste faire ça, ça aussi connecte à notre lumière intérieure. Et ça vraiment, je dirais plutôt que voilà, dessiner ou d'écrire « je t'aime », c'est de l'écrire vraiment, voilà, je fais un mouvement là, de l'écrire dans un mouvement dessiné de vie là. Voilà. Et quand tu fais et au lieu d'écrire « je t'aime », tu l'écris, je sais pas, avec une colombe ou quoi, ou un cœur. C'est une énergie d'amour. Hein. Je veux dire, vraiment, c'est... voilà, c'est ce que pour moi... Donc, c'est nouveau paradigme. C'est. Voilà, c'est. Et puis, tout à l'heure, il a été dit qu'il n'y a pas d'élus. Pour un dernier point, il y a une confusion entre Jean, Jésus, Jean, et Jean le Baptiste. Et en fin de compte, il y a Jean le bien-aimé, qui n'est pas Jésus, qui a maintenu l'espace durant 2000 ans pour de nouveau la revenir, qui est porteur de lumière, qui est le phare de lumière, et qui nous dit les chéris, rappelez-vous, juste écoutez, et qui est là pour amener de nouveau cette énergie, cet enseignement, dans l'invisible bien sûr, mais comme nos amis islandais, l'invisible est là, hein, je veux dire, l'enseignement. Donc via Tat. Donc l'intérieur. Donc en fin de compte, écoutez l'espace de votre cœur, en vous, autour de vous, à travers vous. Merci de votre écoute. J'avais vraiment envie de vous faire ce cadeau parce que Pâques, c'est quand même peau neuve. C'est ce que moi j'ai fait des bisous neufs à mes amis par texto. L'équinoxe 8 jours avant, c'était je lâche l'ancien pour accueillir les nouveaux. Je vous dis de nouveau, pour pouvoir accueillir le nouveau, il faut continuer à remplir la corbeille de l'ancien et la vider. Mais on chemine. Et je vous rappelle aussi la veille, le jour de l'éclipse et de la nouvelle lune, il y a eu cette descente d'énergie photonique, donc or, qui contient tous nos potentiels. Nous sommes ces phares de lumière. Nous sommes ces êtres d'amour. Je suis. Namasté. Et je vous aime. Merci, bâton de parole.
Donc, j'ai lu, j'ai entendu sur la radio ici maintenant Laurent Fendt qui lisait une partie de Conversation avec Dieu Donc cette trilogie là très intéressante, c'est comme ça que moi je suis entré dans la spiritualité et le développement personnel grâce à ce livre auquel au début j'ai pas cru une seule seconde pendant 10 pages, hein. Après ça a tout changé. Alors Laurent Fenn disait que Dieu a créé le monde avec la lumière et qu'il avait autorisé une dose d'obscurité parce que la lumière devait être notre choix et qu'on devait avoir un libre arbitre de nous tourner vers la lumière en la choisissant plutôt qu'en nous l'imposant. Hein. Pour Dieu, notre faculté en tant qu'humain, c'est celle de choisir la plus belle réalité de ce qu'on est. Mais on a tous les choix possibles et on ne peut pas nous imposer quoi que ce soit. Donc pour que le jeu soit équitable, il a créé autant d'obscurité que de lumière, il a autorisé autant d'obscurité que de lumière, dans le sens de qu'est-ce que tu veux, hein? Et je trouve que c'est très beau, quoi. C'est la liberté au sens le plus grand possible. Voilà, et puis donc ceux qui ne connaissent pas, le tome 3 de Conversation avec Dieu va vraiment très profondément. Il y a eu des milliers de groupes dans le monde qui se sont formés à ce sujet. Voilà, une intervention.
Alors, Rosa Inès, moi je voudrais vous remercier tous pour ce beau partage. Et je ressens que le changement est vraiment là, que la lumière se manifeste tout autour de nous, que chaque être est doré, qu'il brille et que c'est de plus en plus contagieux, que nous sommes de plus en plus nombreux. Lâcher prise, avoir confiance que nous sommes déjà arrivés à bon port.
Voilà, et puis il me venait juste cette dernière pensée. Il n'y a absolument pas besoin de lutter contre quoi que ce soit, et pas contre l'obscurité. Au lieu de lutter, nous pouvons simplement choisir la lumière. Et en choisissant la lumière, en y portant toute mon attention, il n'y a plus aucune trace d'obscurité en moi et autour de moi. Donc comme disent beaucoup de personnes actuellement, je nous aime. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. À très bientôt, chers frères et sœurs de Prepare for Change. Thank you.